Radio Galaxy, la radio du Sud Toulousain, on va retourner dans une partie de l'histoire de France et de l'Occitanie avec une conférence qui va être présentée à Carbonne le 22 février sur la croisade contre les Cathares et la libération de Toulouse. C'est organisé par la Pupe en vol et elle est présentée par Georges Labouisse. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant, auteur et chercheur et surtout passionné d'histoire, je crois.
Je suis ancien enseignant parce que je suis à la retraite depuis 25 ans quand même, mais toujours chercheur et toujours historien, donc voilà.
Très bien, alors racontez-nous qu'est-ce qui va être abordé durant cette conférence.
On m'a demandé surtout de parler du catharisme et des cathares, donc je vais essayer, en une heure, ça va être un peu court, mais de raconter un peu cette histoire de la croisade contre les Albigeois en particulier. Je vais commencer par définir ce qu'étaient les cathares, parce que pour beaucoup de gens, on confond souvent cathares et peuple occitan, ce qui n'a rien à voir, ou presque rien disons. Puisque bon, le catharisme, c'est une religion chrétienne, ce n'est pas du tout un peuple ni une région, c'est une religion comme le catholicisme.
Donc on parle d'une croisade, c'est-à-dire une invasion du territoire occitan, si je ne me trompe pas?
Tout à fait.
Et alors qu'est-ce qui a fait déclencher cette croisade? Quelle était la cause de cette invasion?
En fait, le catharisme s'était bien développé dans le comté de Toulouse. Il faut dire qu'à cette époque-là, nous ne sommes pas en France, là, nous sommes dans le comté de Toulouse, qui est totalement autonome ou indépendant, comme on voudra. Mm-hmm. La France, c'était la région parisienne et c'est tout à l'époque. Ouais. Comme on disait Anne Brenon, la France, c'était à cette époque-là quelques taches de couleur entre Paris et Orléans. Voilà, le bassin parisien, en gros. Ici, nous avions l'Aquitaine, nous avions des pouvoirs différents qui étaient dans la mouvance britannique, anglaise, disons. Le comté de Toulouse, la province aussi autonome et tout ça. Voilà, comme c'était une société assez libérale, la liberté de religion était assez répandue dans Toulouse et dans toute la région. Et donc le catharisme s'est bien développé. Pourquoi? Simplement pour bien des raisons, mais en particulier celle que je trouve la plus importante, c'est que l'Église catholique possédait beaucoup de terres, beaucoup de domaines, et concurrençait en fait le pouvoir civil, le pouvoir des comtes ou des seigneurs. C'était ouais. Un pouvoir un peu matérialiste, alors que les cathares, eux, considéraient plutôt tout ce qui était matériel comme le pouvoir du diable, en quelque sorte. Pour eux, c'était le pouvoir de l'esprit qui comptait. Donc ils ne mettaient pas d'impôts sur les gens. Ouais. Contrairement à l'Église catholique qui pratiquait un fisc assez important sur les gens, aussi bien sur les paysans que sur les nobles. Donc le catharisme s'est bien développé dans le comté de Toulouse, commençait à menacer bien sûr le pouvoir de l'Église catholique, et à ce moment-là, le pape a cherché un prétexte pour engager une croisade, pour éradiquer ce christianisme cathare. Il faut dire que c'est la première fois qu'une croisade va être engagée dans un pays ou dans une région chrétienne. Jusqu'à ce moment-là, on a engagé des croisades en Orient contre les musulmans. Là, c'est contre des chrétiens et en terre chrétienne, en fait. Mmh. C'est important de le dire. Alors, le prétexte immédiat, ça a été, en fait, l'assassinat du légat du pape, Pierre de Castelnau, sur les bords du Rhône. En fait, la veille de cet assassinat, le légat du pape avait eu une altercation assez importante avec le comte de Raymond VI à Saint-Gilles. C'était bien disputé, ça avait des écarts de voix extraordinaires. Et donc, le légat du pape part en colère pour traverser le Rhône et repartir vers Rome. Et au passage du Rhône, du côté de Nîmes, il a été assassiné par un écuyer. D'après le pape, c'était un écuyer de Raymond VI. Et donc, le pape a accusé le comte de Raymond VI d'avoir fait assassiner son légat. Et ça a été le prétexte à cette invasion, enfin à cette croisade qui va se terminer par une invasion du comté de Toulouse, voilà.
Alors on est dans quelle époque?
Alors on est au début du XIIIe siècle. Ouais. L'assassinat, c'était le 14 janvier 1208. Et l'invasion a commencé en 1209. Il y a eu deux armées qui ont pénétré sur le comté de Toulouse. Une première armée, qu'on appelle l'armée de l'Ouest, dirigée par l'évêque du Puy, donc en Occitan en quelque sorte, qui est passée par Saint-Antonin dans le Tarn-et-Garonne aujourd'hui, Caussade, Casseneuil, et qui s'est dirigée aussi vers Villemur. Mais cette armée n'est jamais arrivée à Villemur. L'armée s'est dissoute avant d'arriver à Villemur. Pour quelle raison? Parce que je pense que déjà, ils étaient engagés pour 40 jours. Une fois la quarantaine terminée, chacun repartait chez soi. Et donc, l'armée s'est dissoute. Quoi. Mais la grande armée, celle qui va faire le plus de dégâts, celle qui va descendre dans la vallée du Rhône, qui va pénétrer sur les terres du côté de Toulouse. Et on connaît le premier événement célèbre, c'est le 22 juillet 1209. Le massacre des habitants de Béziers. C'est la fameuse phrase qu'on connaît dans les manuels scolaires qui massacrait les tous, Dieu reconnaîtra les siens. c'est pas une phrase qui a été prononcée comme ça, exact. Hein. En fait, c'est tiré d'une lettre du légat du pape au pape, donc, pour expliquer ce qui s'était passé à Béziers, en disant, notre armée a fait merveille, on les a tous massacrés. Et en fait, ils ont de même le nombre de 20 000 morts dans une après-midi. C'est extraordinaire.
Ah oui, tout de même.
Je pense que c'est un peu moins quand même, parce que entre 10 et 12 000, c'est possible, oui.
Et alors, à la fin de cette invasion, comment est-ce qu'on a réussi à libérer Toulouse et son comté?
Alors bon, je passe sur les événements. Il y a eu le massacre de Lavaur, où il y a eu 400 brûlés, c'est le plus grand bûcher de la croisade. Nous arrivons en 1218, mais la guerre dure depuis très longtemps. Simon de Montfort et les Français vont mettre le siège devant Toulouse. Mais Raymond VI va réussir à pénétrer dans Toulouse avec son armée. Son fils Raymond VII va le rejoindre quelques temps après. Et puis, il y a des femmes de Toulouse qui avaient amené une catapulte depuis Saint-Cernin jusque sur les remparts qui se trouvaient à Saint-Michel, à Toulouse. Et puis, le 25 juin 1218, le frère de Simon de Montfort a été blessé. On l'a averti, il s'est précipité au chevet de son frère devant les remparts. C'est à ce moment-là que ces femmes de Saint-Cernin ont déclenché la catapulte et, comme le dit la cantus de la croisade, une grosse pierre est venue est tombé sur le crâne de Simon de Montfort qui a explosé. Alors nous avons une description assez marrante d'ailleurs, on voit les yeux d'un côté, le nez de l'autre, enfin, etc. Si vous passez sur les détails, de Simon de Montfort qui était tué par les femmes de Toulouse. Et après la mort du chef de la croisade, par conséquent, son fils Amaury qui va le remplacer, qui était un jeune de 21 ans, mais qui n'aura pas le charisme de son père. Donc petit à petit, il va perdre toutes ses batailles, tout ce qu'il avait engagé. Il va finir par renoncer à tout ça et il va repartir à Paris.
D'accord.
Et ce moment-là, Toulouse sera libérée. Et ça veut dire que les Toulousains, les Occitans de l'époque, ont gagné cette première guerre, la croisade contre les Albigeois, et s'est terminée là, à Carcassonne, avec le départ d'Amaury vers Paris.
La cité donc, de Carcassonne voilà. Qui fait partie des Cathares, du coup. Hein.
Ah ben oui, fait partie de la Garonne jusqu'au Rhône.
Donc ce sont pour vous un petit peu les principaux événements de cette guerre, du coup.
Tout à fait, oui. Il y en a beaucoup d'autres que j'expliquerai lors de la conférence.
Et ensuite, quelles ont été les conséquences de cette invasion?
Alors, dans un premier temps, comme je l'ai dit, les Occitans du comté de Toulouse ont gagné cette première croisade. Donc, vous croyez que tout était fini. Mais Amaury de Montfort est rentré à Paris et il a donné tous ses droits au roi de France de l'époque, c'est-à-dire à Louis VIII, le père de Louis IX, c'est-à-dire la fameuse Saint-Louis. Et à partir de ce moment-là, Louis VIII, qui attendait qu'une occasion pour s'emparer du côté de Toulouse, il va engager une seconde guerre. Il y a eu deux guerres. Là. La première croisade, gagnée par les Occitans, et puis une guerre engagée par le roi de France à ce moment-là, directement, qui va aboutir plus tard à l'annexion du côté de Toulouse par la France, avec Blanche de Castille et Louis IX, c'est-à-dire Saint-Louis, qui vont s'emparer du côté de Toulouse, définitivement.
Alors encore aujourd'hui, il y a de nombreux châteaux cathares qui se visitent en Occitanie, et pas que des châteaux cathares, on retrouve aussi des abbayes, des cités médiévales, comme la cité de Carcassonne. Aujourd'hui, on en compte combien de sites cathares en Occitanie?
Alors le chiffre, je ne l'ai pas en tête, mais ce qu'on appelle site cathare, c'est une appellation plutôt commerciale, disons. Les châteaux ne sont pas cathares. Ils ont été construits par des gens qui ont adhéré au catharisme, oui, certainement, mais c'est tout.
On peut dire que ces ruines sont de véritables cicatrices de l'histoire et qui en disent beaucoup sur cette période de l'histoire de France.
Ben oui, tout à fait, oui. Tout à fait.
Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore faire des découvertes sur l'invasion des cathares ou alors vous pensez qu'on a à peu près fait le tour? Qu'est-ce que vous en pensez?
Vous savez, en archéologie, il y a toujours des choses à découvrir. Hein. Bon, à Montségur, par exemple, on a fouillé les ruines du château actuel. C'est les ruines du château qui a été reconstruit après le bûcher de Montségur par le duc de Lévis de Mirepoix. Par contre, ce qui est émouvant, c'est de retrouver sur les pentes de Montségur, retrouver les restes de ce qu'on appelle des cabanes, c'est-à-dire des maisons, des gens qui ont vécu là pendant des années. Quoi. On trouve des objets de la vie courante et tout. Ça, c'est émouvant. On en trouve encore, bien sûr, on peut encore fouiller.
Et tout ça, donc, ce sont les sujets que vous allez aborder lors de votre conférence le mercredi 22 février. Rendez-vous à 20h à la salle des fêtes de Carbonne. Pour en savoir beaucoup plus sur la croisade des cathares et la libération de Toulouse avec une entrée libre et gratuite, merci beaucoup, Georges Labouisse, et bonne conférence.
Adicia, c'est à toi, Kevin.